Alors au début c'est vrai qu'on vend à ses copines donc on sait jamais trop si c'est... évidemment ça leur fait plaisir, elles aiment ça, mais il y a un vrai truc où on se dit bon elle me fait plaisir ou vraiment elle veut le pantalon. Et après plus le temps passe, plus de bouche à oreille il y a des gens qui viennent me voir, hein, et des gens de tout âge. Alors moi c'est l'âge qui me surprend, c'est ce que je voulais, donc je suis super contente. Mais des nanas de 15 ans me viennent, enfin viennent me voir, et aussi parce que je suis vendue en boutique maintenant, et c'est des femmes qui ont 60, 70 ans. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand je discute avec elles, parce que le premier jour de la vente dans cette boutique, enfin l'arrivage de mes pantalons, j'ai pu discuter avec elles, j'étais là, et elles m'ont dit, mais c'est génial, ça me fait penser à un pantalon l'an 20 que j'ai acheté il y a 30 ans. C'est marrant, ça revient à la mode. Enfin bon, c'est ça, encore l'idée de partage, c'est intéressant, et c'est vrai que c'était... Et puis... aussi la morphologie, parce que on sait jamais trop en fait, les femmes qui ont des hanches, elles ont pas envie d'avoir des pantalons à plis en général, ça leur fait peur. Et au contraire, pas tous mes pantalons, parce que faut être honnête, mais il y a quand même 2-3 pantalons qui vont très bien à ces femmes, et elles se sentent bien dedans, et elles apprécient leur forme dedans, elles s'assument, donc voilà, l'idée c'est que ça continue comme ça, ouais, c'est super, je trouve ça bien, quoi. Intéressant.
Donc c'est intergénérationnel quoi.
Ouais.
Et ça c'est ce que je... Enfin, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut se concentrer sur une personne, un type. Et en fait là tu te rends compte que...
Déjà je fais du monoproduit, donc déjà je trouve que je me restreins beaucoup. je fais un produit, donc l'idée c'est que ce produit-là il soit pour tout le monde. Enfin, sinon je ferais une collection pour les jeunes. Non. Puis depuis le début, même ma collection de fin d'année dans mon école, c'était... j'avais fait une collection pour les gens mûrs. Pour moi, il faut que ça soit intemporel, il faut que ça plaise à tout le monde, faut pas se limiter, je pense, vraiment pas, en tout cas sur la clé.
Et surtout que en fait, tu te rends compte que dans une même famille, tu as 3 femmes, la grand-mère, la fille, la petite-fille, qui portent le même pantalon.
Ah ouais.
Et est-ce que tu te rends compte d'ailleurs que c'est le même pantalon, ou juste parce que c'est une génération différente, le pantalon n'a pas le même aspect?
Après il y a des envies, comme c'est des pantalons taille haute, il y en a tout de suite vont mettre le t-shirt dedans, et puis il y a d'autres femmes, elles ne sont pas du tout habituées à porter, le porter avec un t-shirt à l'intérieur, elles préfèrent porter les choses à l'extérieur, et effectivement on dirait pas du tout le même pantalon, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis en fait chaque pantalon aussi, moi je le porte plutôt oversize, c'est mon style à moi, donc j'ai plutôt tendance à avoir le porter à une taille au-dessus, parce que c'est comme ça que j'aime le porter. Et donc il peut être porté différemment. Un pantalon peut être porté oversize ou très cintré ou très serré. Ça dépend en fait vraiment comment les gens...
Donc en fait, un pantalon, un modèle de ta collection, tu peux le porter de différentes façons et l'adapter par rapport à ton goût du jour. C'est pas vraiment... Par exemple, aujourd'hui, je me dis je vais mettre un style, donc c'est ce pantalon ou rien. C'est genre, peux porter ce pantalon avec n'importe quoi et...
Bien sûr, ouais. Après, parce que après c'est des avis personnels, moi je suis madame basket par exemple, je mets toujours des baskets avec mes pantalons, mais encore une fois là dans cette boutique là il y avait des femmes très élégantes en talons à 60 ans avec des choses assez sexy, même moi c'est très contraire de mon style personnel encore une fois, et elles ont adoré parce que ça va très bien aussi avec des talons, avec une petite chemise un petit peu décolletée. Il n'y a pas de règle, je pense que c'est comme on le sent, enfin, c'est vraiment un sentiment, quoi. On se sent bien dedans, on a envie de le porter comme ça ou comme ça.
Hein. Justement, c'est génial de se dire qu'un produit aujourd'hui de prêt-à-porter, on peut l'adapter et le personnaliser, c'est ça, pour chaque. Et ça c'est un plaisir, je pense qu'on ne trouve pas forcément on va pas parler de la grande distribution, mais bon, aujourd'hui, quand on a un pantalon, on va le garder 1 an, 2 ans, et encore 3 ans, on est chanceux. Ah, sauf ouais, que ouais, là, en fait, c'est non seulement garder toutes les générations en se rappelant le bon temps, ou même le passer à sa fille, ou même le passer...
C'est non, c'est sympa. Bah, et puis après, encore une fois, comme mon inspiration, c'est ma grand-mère, et je peux aussi dire ma mère, parce que c'est, voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup et qui m'inspire tous les jours. Et du coup, j'aurais pu me dire, bon bah voilà, les jeunes aujourd'hui, c'est eux la cible, parce que c'est eux qui aiment la mode, c'est eux qui vont oser plus... porter des pantalons qui sont peut-être un peu trop grands ou à plis, etc. Alors je m'aperçois que même si ça avait été ma cible, de toute façon, mon inspiration, c'est d'aller vers les gens qui ont déjà vécu des choses et qui peuvent se retrouver et avoir des souvenirs avec, avec ce genre de coupe, quoi. Donc,
si tu pouvais parler à toi à 10 ans, est-ce que tu lui dirais quelque chose en particulier par rapport à ce que tu sais aujourd'hui se passera, genre est-ce que tu dirais je vais faire des choses différemment, qu'est-ce que...
Alors je me serais dit genre de m'écouter plus et arrêter d'écouter mes parents. Enfin, pour le style vestimentaire, parce que je me cachais parce que ma mère supportait pas, je me mettais en jean et en partie tout le temps, même à 10 ans, hein, j'étais tout le temps en jean et puis je piquais des trucs à mon père, enfin, c'était un peu l'importe. Et je me cachais parce que je partais à l'école avec ce que ma mère me disait de mettre et puis dans mon sac à dos je mettais toujours mon jean, donc voilà, pourquoi pas, oui, simplement me dire en fait ça aurait rien changé aujourd'hui, hein, mais me dire bon, il faut oser, je pense qu'il faut être comme on est, comme on a envie d'être, et puis parce que de toute façon aujourd'hui je suis madame pantalon, donc ça change rien, ça n'a rien changé. Bon, après, j'ai eu des périodes où je sortais, où je mettais des talons, des choses un peu courtes, un peu plus sexy. Je regrette pas cette époque-là parce que j'ai appris des choses quand même. Voilà. Mais j'aurais pu les éviter aussi, je m'en serais très bien sortie. Donc voilà. Bon,
que tu dirais que c'était vachement plus poussé par rapport à ce que tu étais vraiment, ou... Il y avait une certaine envie de s'adapter ou...
Non. Oui, après, quand je suis arrivée à Paris, je suis canaise, donc c'est vrai que moi, j'ai... De toute façon, j'ai toujours eu la réputation de garçon manqué. Donc voilà. Ça m'a poursuivi, surtout à Caen. Après, à Londres, c'était différent. Les femmes s'habillaient hyper court, avec plein de couleurs. Alors, putain, mais c'est quoi ? Donc je me suis amusée. Pour moi, c'était même plus du déguisement, en fait. Mais je me suis amusée à faire la même chose. Mais c'était encore une fois un amusement, c'était pas moi en fait. Donc je l'ai fait plusieurs fois ça. Mais évidemment, et après je suis plus devenue femme aussi. C'est-à-dire que mon côté féminin, j'avais envie de le montrer aussi. Donc c'est vrai que maintenant quand mes copains canés qui m'ont pas vue pendant 10 ans, même si je porte encore le pantalon et que je suis en basket, je suis quand même bien plus féminine que ce que j'étais avant. Donc voilà, je pense que voilà, mon côté féminin est plus développé et je l'assume complètement. Je les porte tous mes pantalons, je les mets tous les jours. Donc, ah oui, non, c'est complètement moi. Alors les pantalons, c'est complètement moi et j'ai envie que ça reste moi. Et après, je vais avoir d'autres envies, et c'est vrai que là j'en ai déjà un petit peu, des choses peut-être un peu plus habillées, enfin, ça reste élégant, mais pour moi c'est chic décontracté, hein, vraiment, ça, je resterai là.
Tu nous as pas parlé de ton expérience en tant que prof, est-ce que tu dirais d'ailleurs que tout ça, là, cette partie pédagogique, tu l'as pris comme une expérimentation, ou tu t'es, genre par exemple, est-ce qu'il y a 3-4 ans, si je te disais dans 4 ans tu vas lancer ta marque, est-ce que ça te choquerait ? Ou tu te voyais plutôt dans la pédagogie tout au long de ta carrière ? Enfin, comment tu voyais les choses ?
Non, alors moi je suis pas du tout... Je me suis jamais dit tu vas faire ça toute ta vie. Enfin, moi je suis persuadée qu'on a plusieurs vies dans une vie, donc ça c'est évident. Donc j'aimerais que ma marque de pantalon elle reste... je la garde jusqu'au bout. Mais j'ai plein d'autres envies aussi, enfin, je pense que c'est des rencontres, c'est plein de choses qui font que... Voilà, la pédagogie, c'était une rencontre au début, de mes directeurs pédagogiques avec qui vraiment il y a eu une vraie amitié qui s'est formée dès le début. qui m'ont appris leur métier, qui m'ont formé à leur métier. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça me plaisait, mais c'était pas du tout gagné. C'était un pari, quoi, vraiment, même pour eux, de se dire, voilà, j'avais quand même 23 ans, ils m'ont envoyé à Madrid, j'avais 23 ans, quoi, pour diriger la pédagogie là-bas.
Donc, explique juste par rapport. Donc, oui. Tu as fait une école.
Alors, j'ai fait une école, et après, je suis donc en sortant majeur de ma promotion, et en m'entendant très bien avec mes directeurs pédagogiques. Ils m'ont proposé de travailler à mi-temps pour eux, pour organiser des événements, donc, les défilés, les portes ouvertes, et donner des cours plutôt pendant les vacances à des lycéens. Et je me suis vite rendu compte que j'adorais faire ça. Et enfin, c'est vraiment encore une fois l'idée du partage, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de partager les choses, de partager l'envie d'un métier, la passion. Je pourrais pas dire que je suis passionnée, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai envie depuis que je suis née. Donc c'est une passion qui est née au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est vraiment. Et puis, c'est pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui a soif de la tendance. Je suis pas modeuse, on va dire. Je sais pas comment on peut dire. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire.
Tu te restes très fidèle à tes goûts et tes
envies. Ouais, ouais, ouais. Après un an de formation, j'étais aussi à mi-temps chez une créatrice. Et après un an de formation, ils m'ont proposé de partir à Madrid, parce qu'ils venaient d'ouvrir une école à Madrid, pour diriger la pédagogie, enfin être responsable pédagogique. Donc, encadrer les jeunes, créateurs, faire la pédagogie, donc en fait le pont entre chaque cours. Donc, gérer quand même des profs qui ont quand même 30 ans d'expérience, ou 20 ans, ou même 10 ans, et moi j'arrive, voilà, je sors de l'école, donc c'était assez je ne me suis pas rendu compte en fait tout de suite parce que j'étais à fond. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand je suis rentrée, je me suis dit, j'avais 25 ans quand je suis rentrée, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je viens de faire, quoi. Enfin, bon. Donc en fait, ils ont eu confiance en moi, ils m'ont envoyée là-bas, donc expérience de folie, quoi. J'ai adoré. Mes étudiants avaient. Il y avait des gens qui avaient même 20 ans de plus que moi, globalement, avaient 2 ans, 2, 3 ans de moins que moi, quoi. Donc il y a un vrai truc où on échange, quoi. Je leur apprends des choses, les bases du métier. Et puis après, quand on fait comme c'est. De toute façon, c'est très manuel hein, comme métier. Faut enfin savoir, je faisais pas beaucoup de théorie. Hein. On était plutôt dans un bureau de style où il y avait beaucoup de création. Et vraiment, j'ai adoré. Et c'est quelque chose que je veux garder, même peut-être. Je sais pas, je m'imagine à 70 ans, donner des cours encore, même si c'est une journée par semaine. Ou même, je sais pas, dans ma maison de campagne. Enfin, je m'imagine dans ma maison de campagne. À donner des cours aux jeunes du coin, quoi, même si c'est des CAP ou j'en sais rien. Enfin, voilà, toujours un truc où j'ai envie de partager ça et j'ai envie de leur apprendre quelque chose qui est super. Et puis comme c'est manuel, de toute façon, même s'ils n'en font pas leur métier, ils vont de toute façon avoir une expérience intéressante et vont apprendre des choses. Et puis on s'amuse quand même. Faut s'amuser, sinon ça sert à rien de faire ce métier. Parce que si c'est pour être dans la mode qu'on connaît ou dont on entend parler, et faire la belle et se montrer, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, ce que je veux, c'est.
Voilà, c'est superficiel du métier, quoi.
Oui, parce qu'il y a toujours un côté.
Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est expérimental. Et justement, toi, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'il n'y a pas eu un seul moment où tu n'avais pas forcément envie de faire ce métier-là, mais que tu t'es plutôt laissé, en mode découverte, en mode j'expérimente.
Ouais, mais après, j'explique ça comme une histoire d'amour. Moi, je crois pas au coup de foudre.
D'accord.
Tu vois ? Enfin, voilà.
Ça, c'est bien.
Non, je crois au coup de cœur, enfin moi j'ai aimé des gens instantanément quand je les ai vus, mais je parle des gens, je parle pas de l'amour amoureux, quoi.
D'accord.
Donc moi quand je dis coup de foudre, là c'est amoureux vraiment.
D'accord.
Donc, parce qu'une histoire d'amour, c'est censé durer toute la vie, enfin je veux dire, après c'est dans les contes de fées, on est d'accord. Dans le sens où, pour moi c'est une construction, on construit avec l'autre, tous les jours. Donc c'est. Dans le temps, on devient amoureux de plus en plus, pour moi, en fait, au fur et à mesure du temps. Et après, on l'est plus, peut-être. Ou après, on en reste. Ça, c'est... voilà. Mais pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est j'ai pas eu le coup de foudre pour ce métier, je l'ai aimé au fur et à mesure que je l'ai découvert. Donc pour moi, c'est un peu.
Mais il y a aussi le mot partage, peut-être, qui serait pour échanger.
Ouais, c'est vraiment l'échange, ouais.
Et c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire ça prend du temps, et le partage aussi, ça prend un certain temps. Ouais. Et parfois, les gens ne prennent pas le temps justement de le faire. Et on a des produits qui sont pas forcément bons, qui vont à des millions de personnes, mais c'est pas forcément, y a pas de, on n'a pas envie de le garder, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est. Est-ce que tu aurais. Est-ce que quand je dis l'entrepreneuriat, c'est on va dire, le mode de vie que tu as décidé il y a 6 ouais. mois. Est-ce que ça t'est venu. Genre, t'étais sous la douche et t'as dit, bon, bah, je vais être entrepreneur ou...
Après, c'est encore une fois. Je me suis jamais donné l'objectif de faire ça. Mais j'ai travaillé pour plusieurs boîtes et puis j'ai décidé de lancer ma marque. Donc forcément, je devais être entrepreneuse. Donc c'était pas un but. Après, c'est vrai que je préfère être ma boss qu'avoir une boss au-dessus de moi. Je vais pas cacher, je pense que c'est tout le monde. Voilà, c'est sûr. Hein, mais après, pour l'instant, j'ai besoin de personne parce que je suis encore petite. Et puis on va voir. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas... que je sois la directrice artistique, ça on est bien d'accord, mais je veux pas être au-dessus forcément de tout le monde et dire voilà, toi tu fais ci, tu fais ça. Je pense qu'aujourd'hui, les boîtes qui marchent le mieux, c'est les boîtes qui arrivent à garder les bons employés.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que si je trouve quelqu'un de bien, j'ai envie de le garder, donc j'ai envie qu'il soit bien dans ma boîte. J'ai pas envie de commencer à lui dire c'est à cette heure-là, on est quand même là je suis dans la mode, ça va. Enfin, et puis je brasse pas des milliards, donc je suis pas une businesswoman, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de trouver une équipe qui plaît.
Mais on pourrait dire aussi que donc dans ton cas, l'entrepreneuriat c'est un processus qui s'est fait naturellement.
Ouais.
Qui s'appelle comme tel, mais ça change pas le fait que c'est tout. Et aussi, on a l'impression donc tu appliques un peu ta philosophie du travail et tu tiens. Parce que tu as, enfin, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, je pense que tous les entrepreneurs sont passés par plusieurs sociétés avant.
Ouais.
Et en fait, d'ailleurs, puisque. Parfois, en fait, quand on a envie de... Alors, il y en a qui appellent ça bébé, mais quand on a un projet en tête, c'est très dur de travailler pour d'autres marques. Et moi, je pense, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ne se sentent pas bien dans... Ils ont fait, je sais pas moi, 3 boîtes différentes en 4 ans, je dis, ouais. T'aurais pas une idée en tête, parce que cette expérience, ça t'a pas aussi amené à voir de ce que tu ne voulais pas par rapport à ta marque, et aussi découvrir un peu ta marque, c'est-à-dire que... T'avais plusieurs univers différents, j'imagine, ouais. C'était parce que tu disais que tu étais dans le fast market, etc. Ouais. Donc ça t'a pas aussi permis en fait, de faire grandir ton idée ?
Si. Après, le métier de styliste, vraiment, ce qu'on apprend à l'école, c'est de s'adapter.
Mm-hmm.
D'accord, c'est un métier d'adaptation, parce que styliste, ça veut dire que de toute façon, on travaille pour quelqu'un d'autre. On n'est pas directeur artistique, on n'est pas créateur,
mm-hmm.
On nous apprend un métier d'adaptation, donc de s'adapter à toute marque. Même si c'est très loin de notre univers. Donc, de toute façon, c'est le métier. On choisit ce métier, on se dit qu'on continue ce métier, on se dit non, de toute façon, avant de retrouver... Après, il y en a qui ont la chance, hein, qui trouvent tout de suite quelque chose, ou qui entreprennent tout de suite une marque, et ça roule. Mais de manière générale, on est quand même plusieurs à bosser pour plusieurs boîtes différentes, avec plusieurs styles. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on commence à créer sa propre marque, aujourd'hui, moi, je suis obligée de travailler encore en auto-entrepreneur pour d'autres sociétés, on a du mal à s'enlever de la tête notre bébé. Et puis de toute façon, moi ça fait voilà, depuis que je suis rentrée en septembre, j'avais commencé en juin, après il y a eu les vacances, donc c'était plus calme, hein, c'est-à-dire que comme c'était l'hiver au mois de juin, j'étais pas à 200% dans le truc, parce que bah, ça se vendait pas, mais c'était normal, enfin bon, voilà, il y avait tout le process à mettre en place, il y avait des choses à mettre en place, et depuis septembre, enfin, j'en rêve la nuit, je me lève le matin avant mon réveil parce que je sais qu'il faut que je fasse ça. Moi, c'est vraiment un bébé. Bon, après, je pense que je suis pas amoureuse de pantalon, mais enfin, j'ai envie de développer tout le temps quelque chose. Après, je pense que le vrai problème, c'est la frustration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est bloqué parce que on n'a pas les moyens financiers. Il y a le chat qui va sauter. Et ça bloque, enfin après il y a plein de choses, mais c'est bien parce que ça permet de. C'est des missions à chaque fois, c'est des challenges.
les marques qui sont vraiment authentiques, la concurrence n'est pas justifiable, parce que chacun a son style.
Oui, il a son...
Et que donc derrière, le marketing doit se faire de façon, c'est-à-dire, je vais, par exemple, dans ton cas, je dirais qu'aller donner des cours et être toute ta partie pédagogue, c'est du marketing. Parce que tu vends ton style, tu vends une certaine part. Et tu vois, donc ça, c'est un côté qui est d'ailleurs plus sain, je trouve, sur les termes, parce que c'est comme si tu construisais en fait ta communauté ou ta clientèle de façon organique. Ouais. Et qui sera pas un overnight success. Ce sont des gens fidèles, c'est ça aussi que je me dis.
Oui, mais après, t'as toujours quand même l'envie. Et après, tu sais que c'est. Enfin, moi, je sais que c'est éphémère. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de famous, machin. Après, je sais qu'il y a des choses. Il y a des étapes qui sont quand même importantes. Parce que j'ai quand même envie de toucher le plus de monde possible, évidemment. Enfin, faut être honnête. Pour l'instant, c'est pas. Enfin, pour l'instant, je suis pas pressée. Mais je sais que ça va venir, quoi. Il va falloir quand même que. Donc évidemment, bah, y a Colette qui est une référence à Paris où tu te dis quand même, bon, ça serait super d'être vendue chez Colette. Ça fait partie du métier, ça fait partie du... De... Après, je sais qu'il y a des femmes actuelles qui sont, j'en sais rien, moi, actrices ou j'en sais rien, mannequin ou peu importe, tu vois, des icônes de la société d'aujourd'hui. Après, c'est pas... mes icônes, enfin, tu vois, c'est pas forcément mes références.
Modernes.
Voilà, mais c'est des gens avec qui, qui sont quand même importants et que les gens suivent. Tu vois, rien que ça soit sur Instagram. Tu vois, au début, moi j'étais pas du tout Facebook, Instagram, je m'y suis mise et puis ça m'amuse finalement aussi. Mm-hmm. Je trouve ça sympa. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même sympathique là-dedans. Mon Facebook, c'est un peu raconte ma vie, ça j'aime pas, mais. L'image, je trouve ça sympa, je suis plein de gens, je suis quand même pas mal dessus, alors qu'avant, j'étais un...
Je prends ça comme un jeu, en fait.
J'ai pas envie de poster parce que j'ai pas envie de passer ma journée à attendre la bonne photo. Ça, c'est un truc, ça me plaît pas du tout, quoi. Vraiment, je suis pas comme ça. Et puis finalement, on se prend au jeu et puis, bon, on se dit, bon, je vais pas poster tous les jours, mais dès qu'il y a un truc... Et puis j'avais pas envie de raconter ma vie perso non plus.
Ouais.
Et puis t'es obligé quand même de rentrer un peu là-dedans.
Bah surtout voilà, c'est vrai que
et aujourd'hui t'as le côté perso qui rentre vachement en jeu. Il y a des marques qui ont marché que pour ça au début, quoi. Mm-hmm. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui racontait sa vie, qui se produit dans sa salle de bain en photo, enfin ce côté là finalement ça va marcher un jour.
C'est bien d'être dans cette philosophie où en fait tu vas pas te poser trop de questions. Tu vas être dans l'instant, c'est-à-dire que tu vas vraiment être dans ton instant présent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui me donne envie? Et tu vas pas non plus chercher genre à te compliquer en mode... T'as confiance en quand même... On peut dire que t'as un peu confiance aux choses, en la vie, quoi.
Oui, en la vie, j'ai confiance.
Parce que sinon, tu serais pas comme ça. Enfin,
Non, sérieusement. J'ai confiance, je sais pas, aux rencontres, quoi. Il y a des choses qui font que... Tu vois, parce que ça se trouve, j'en sais rien, moi, demain, mon mec, il va ouvrir un resto, puis ça se trouve, je vais avoir envie d'être derrière le bar. J'en sais rien. Enfin voilà.
Ça a tout pareil.
Non mais c'est vrai, non mais même pantalon, j'ai envie que ça reste, c'est évident, mais peut-être que ça va pas marcher là, et puis peut-être que dans un an ça va marcher. Enfin, si ça marche pas là, c'est pas la fin de la journée. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais essayé, mais je sais que ça prend le temps.
C'est terminé pour cet épisode. C'était une conversation un peu plus intime que je voulais partager avec vous. Vous pouvez retrouver le début de l'interview et découvrir Marine Leverson sur le site solibox.com, avec ses produits à découvrir très prochainement sur le site. Merci à Marine et merci à vous, auditeurs. N'hésitez pas à me contacter sur le site ou sur mon adresse camille.avis@solibox.com. Et je vous dis à très vite sur le site et sur le podcast Solibox. We'll be right back.